Chapitre 16. Maeglin. Aredel Arfeiniel, la dame blanche des Noldor, fille de Fingolfin, vivait au Nevrast avec Turgon son frère, et elle l'accompagna au royaume caché. Mais elle vint à se lasser de la cité gardée de Gondolin, aspirant chaque jour davantage à chevaucher de nouveau sur les vastes terres et à cheminer par les forêts, comme elle s'y plaisait en Valinor. Et quand 200 ans eurent passé depuis l'achèvement de Gondolin, elle s'adressa à Turgon et lui demanda congé. Turgon n'y voulait consentir, et longtemps il la refusa. Mais il dut enfin céder et déclara « Eh bien, pars, si tel est ton désir, bien que la sagesse me le déconseille, et je pressens que l'issue sera mauvaise, pour toi comme pour moi. Mais tu n'iras que pour trouver Fingon, notre frère, et ceux que j'enverrai avec toi devront revenir ici à Gondolin, sitôt qu'ils le pourront. » Mais Aredel dit « Je suis ta sœur et non ta servante, et hors de ton domaine, j'irai où bon me semble. Et si une escorte est trop te demandée, j'irai seul. » Lors Turgon répondit « Je ne te refuse rien de ce que je possède. Seulement je ne puis souffrir hors de mes murs, quiconque connaît le chemin qui y mène. Et si j'ai confiance en toi, ma sœur, je ne compte pas que tous puissent tenir leur langue. » Et Turgon choisit 3 seigneurs de sa maison pour accompagner Aredel dans sa chevauchée, et il les pria de la conduire à Fingon au Ithlum s'ils arrivaient à l'en convaincre. « Et prenez garde, » dit-il, « car bien que Morgoth soit confiné dans le nord, il y a en terre du milieu moult périls dont la dame ne sait rien. » Lors, Aredel quitta Gondolin, et Turgon eut le cœur lourd de la voir partir. Mais lorsqu'il parvint au gué de Brithiac, sur le fleuve Sirion, elle dit à ses compagnons « Maintenant prenez au sud et non au nord, car je ne souhaite pas me rendre au Ithlum. Mon cœur m'enjoint plutôt d'aller trouver les fils de Fëanor, mes amis d'antan. » Et comme ils ne purent l'en dissuader, ils prirent vers le sud comme elle l'ordonnait, et demandèrent à être reçus au Doriath. Mais les gardiens des marches les refusèrent, car Fingol ne laissait entrer aucun des Noldor au-dedans de la ceinture, hormis ses parents de la maison de Finalfin, et encore moins ceux qui étaient amis des fils de Fëanor. Les gardiens dirent donc à Aredel, « Pour le pays de Celegorm auquel vous voudriez atteindre, dame, vous ne pouvez d'aucune façon traverser le domaine du roi Thingol. Vous devez contourner la ceinture de Melian par le sud ou par le nord. Le chemin le plus court passe par les sentiers qui mènent à l'est depuis le Brithiac, à travers le Dimbar et le long des marches septentrionales de ce royaume, jusqu'à franchir le pont de l'Esgaldwin et les gués de Laros, pour gagner le pays derrière la colline de Himring. C'est là, croyons-nous, que demeurent Celegorm et Curufin, et il se peut que vous les trouviez. Mais la route est périlleuse. » Lors, Aredel fit demi-tour et tenta la dangereuse route entre les vallées hantées des Ered Gorgoroth et les barrières septentrionales du Doriath. Et tandis qu'ils approchaient de la maléfique contrée de Nan-Dungortheb, les cavaliers s'empêtrèrent dans un lacis de ténèbres et Aredel s'éloigna de ses compagnons et se perdit. Ils la cherchèrent longtemps, craignant qu'elle n'ait été prise au piège ou n'ait bu aux sources empoisonnées de cette région, mais leurs recherches furent vaines. Et les infâmes créatures d'Ungoliant qui peuplaient les ravins furent alertées et les prirent en chasse, et c'est à peine s'ils en réchappèrent. Lorsqu'enfin ils rentrèrent et racontèrent leur mésaventure, une vive affliction s'empara de Gondolin, et Turgon resta longtemps assis seul, subissant en silence son chagrin et son ire. Mais Aredel, après avoir cherché en vain ses compagnons, poursuivit sa cavalcade, ayant le cœur vaillant et intrépide comme tous les enfants de Finwë. Et sans dévier de sa route, elle franchit l'Esgaldwin et Laros, et parvint dans le pays de Himlad, entre Laros et le Kelon, où Celegorm et Curufin vivaient en ces temps-là, avant la rupture du siège d'Angband. Ils étaient alors absents, partis chevaucher à l'est avec Caranthir au Targaryen. Mais les gens de Celegorm l'accueillirent et la prièrent de demeurer avec eux dans l'honneur jusqu'au retour de leur suzerain. Là, pour un temps, elle vécut heureusement et prit grand plaisir à vaguer librement dans les bois. mais tandis que l'année s'allongeait et qu'Elégorme ne revenant pas, elle s'agita de nouveau et se mit à chevaucher de plus en plus loin, seule, en quête de nouveaux sentiers et d'échappées secrètes. Ainsi, le hasard voulut qu'au déclin de l'année, Aredel parvint au sud du Himlad et traversa le Kelon. Et avant de s'en apercevoir, elle succomba au piège de Nan Elmoth. Méliane s'y était promenée en des âges passés, dans le crépuscule de la terre du milieu, quand les arbres étaient jeunes, et son enchantement y subsistait. Mais les arbres de Nan Elmoth étaient désormais plus grands et plus sombres que partout ailleurs en Beleriand, et le soleil n'y perçait jamais. Et c'est là que vivait Éol, surnommé l'Elfe Sombre. C'était jadis un elfe de la maison de Thingol, établi au Doriath, mais il y avait toujours été inquiet et mal à l'aise. Et lorsqu'on avait placé la ceinture de Méliane autour de la forêt de Region où il vivait, il avait fui à Nan Elmoth. Depuis, il y vivait dans l'ombre épaisse, épris de la nuit et du crépuscule sous les étoiles. Il évitait les Noldor, qu'il tenait responsables du retour de Morgoth, troublant la quiétude du Beleriand. Quant aux nains, il avait pour eux plus de sympathie qu'aucun autre des elfes de jadis. Grâce à lui, les nains savaient plus ou moins tout ce qui se passait dans les terres des Eldar. Or, le commerce des nains venus des Montagnes Bleues empruntait deux routes à travers le Beleriand de l'Est et celle du Nord qui rejoignait les gués de Laros, passait non loin de Nan Elmoth. Et là, Éol allait souvent à la rencontre des Naogrim pour s'entretenir avec eux. Et à mesure que leur amitié grandit, il eut coutume d'aller séjourner chez eux dans les profondes salles de Nogrod ou de Belégost. Là, il apprit le travail du métal et acquit en cet art un grand savoir-faire. Et il conçut un métal aussi dur que l'acier des nains, mais si malléable qu'il pouvait lui donner minceur et souplesse, sans qu'il perdît sa résistance aux lames et aux flèches. Il le nomma Galvorn, car ce métal avait la noirceur et l'éclat du jet, et il s'en revêtait chaque fois qu'il allait au loin. Mais Éol, quoique voûté par son travail de forge, n'avait rien d'un nain. C'était un elfe de haute stature, d'une haute lignée des Teleri, au visage noble, quoique sévère, et ses yeux perçaient les ténèbres et les endroits sombres. Et il se trouva qu'il aperçut Aredel Alfeiniel comme elle s'aventurait parmi les grands arbres sur les confins de Nan Elmoth, blanche lueur en terre de pénombre. Elle lui parut fort belle, et il la désira. Et il dressa ses enchantements autour d'elle afin que ne puisse retrouver les issues, mais s'approche toujours davantage de sa demeure au creux de la forêt. Là se trouvaient sa forge, ses sombres halles et ses quelques serviteurs, aussi secrets et silencieux que leur maître. Et quand Aredel, las de ses errances, parvint enfin à sa porte, il se montra à elle, et il l'accueillit et la prit sous son toit. Et elle y demeura, car Éol la prit pour épouse, et il fallut longtemps pour qu'aucun des siens entendît de nouveau parler d'elle. On ne dit pas qu'Aredel fut prise entièrement contre son gré, ni que son existence à Nan Elmoth lui fut détestable avant maintes années. Car bien que sur l'ordre d'Éol, elle dut fuir la lumière du jour, ils allaient loin ensemble sous les étoiles ou sous la lune en croissant. Parfois, elle voyageait seule et où lui semblait bon, sinon qu'Éol lui interdisait d'aller trouver les fils de Fëanor, ni aucun des autres Noldor. Et parmi les ombres de Nan Elmoth, Aredel donna à Éol un fils. Et en son cœur, elle lui donna un nom dans la langue proscrite des Noldor, Lomion, c'est-à-dire l'enfant du crépuscule. Mais son père ne le lui donna aucun nom avant l'âge de 12 ans. Alors, il l'appela Maeglin, ou regard acéré, car les yeux de son fils lui semblaient plus perçants encore que les siens, et sa pensée pouvait lire dans le secret des cœurs à travers le brouillard des mots. De forme et de figure, Maeglin, en grandissant, ressemblait davantage à ses aïeux des Noldor, mais d'humeur et d'esprit, c'était le fils de son père. Il était de peu de mots, sauf en ces choses qui le touchaient de près, et alors sa voix avait le don d'émouvoir ceux qui l'entendaient et de confondre ceux qui lui résistaient. Il était grand et noir de cheveux. Ses yeux étaient sombres, mais vifs et éclatants comme ceux des Noldor, et il avait le teint pâle. Souvent, il se rendait avec Éole dans l'une ou l'autre cité des nains, dans l'est des Ered Lindon. Et là, il écoutait volontiers tout ce qu'on voulait bien lui apprendre, en particulier l'art de trouver les minerais de métaux dans les montagnes. On dit pourtant que Maeglin aimait plus tendrement sa mère, et qu'en l'absence d'Éole, il aimait à s'asseoir auprès d'elle pour entendre tout ce qu'elle avait à lui raconter sur sa famille et leur vie à Eldamar, et sur la grandeur et le courage des princes de la maison de Fingolfin. Et lui prenait tout cela à cœur, mais surtout ce qu'il apprenait de Turgon et le fait qu'il n'eût point d'héritier. Car Elenwë, son épouse, avait péri dans la traversée du Elkalaxé, et sa fille Idril Celebrimdal était son seul enfant. Ces récits firent naître chez Aredel le désir de revoir sa propre famille, et elle s'étonna de ce qu'elle s'était lassée de la lumière de Gondolin, des fontaines chatoyantes au soleil et du pré verdoyant de Toumladen sous les cieux éventés du printemps. De plus, elle se trouvait souvent seule parmi les ombres lorsque son fils et son époux s'absentaient tous les deux. Ces contes provoquèrent également les premières querelles de Maeglin et d'Éole, car sa mère ne voulait en aucun cas révéler à Maeglin où vivait Turgon, ni comment l'on pouvait s'y rendre, et Maeglin attendait son heure, confiant de pouvoir un jour lui arracher son secret en l'amadouant ou en lisant dans son esprit lorsqu'elle n'y prendrait pas garde. Mais avant d'y arriver, il désirait rencontrer les Noldor et parler aux fils de Fëanor, ses cousins, qui vivaient non loin de là. Mais lorsqu'il annonça son intention à Éole, son père se courrouça. « Tu es de la maison d'Éole, Maeglin, mon fils, » dit-il, « et non des Golodrim. Tout ce pays appartient aux Teleri, et ni moi ni mon fils n'aurons commerce avec les assassins de notre peuple, les envahisseurs et les usurpateurs de nos terres. En cela tu devras m'obéir ou je te mettrai dans des chaînes. » Et Maeglin ne répondit pas, mais resta froid et silencieux, et il ne voyagea plus avec son père. Et Éole devint méfiante à son égard. Il arriva qu'à la mi-été, les nains, comme c'était leur coutume, convièrent Éole à une fête à Nogrod, et il s'en fut à cheval. À présent, Maeglin et sa mère étaient libres d'aller où ils voulaient pour un temps, et ils chevauchaient souvent à l'orée du bois pour voir la lumière du jour. Et Maeglin sentit en son cœur l'ardent désir de quitter Nanelmoth pour toujours. Aussi dit-il à Aredel, « Madame, partons pendant qu'il est temps. Quel espoir y a-t-il dans ce bois pour vous ou moi ? Ici nous sommes tenus prisonniers, et je n'y trouverai aucun profit, car j'ai appris tout ce que mon père est à même d'enseigner, ou que les Nogrim veulent bien m'apprendre. N'irons-nous pas en quête de Gondolin ? Vous serez mon guide et moi votre gardien. » Lors, Aredel se réjouit, regardant son fils avec fierté. Et ayant dit aux serviteurs d'Éole qu'ils allaient trouver les fils de Fëanor, ils chevauchèrent jusqu'à la lisière nord de Nan-Elmoth. Là, ils franchirent le mince ruban du Kelon et passèrent en pays Imlad jusqu'au gué de Laros, puis ils prirent vers l'ouest le long des barrières du Doriath. Or, Éole rentra de l'est plus tôt que Maeglin ne l'avait escompté. Il trouva son épouse et son fils absents depuis seulement 2 jours. Et sa colère fut si grande qu'il les poursuivit même en pleine lumière. Arrivé au Imlad, il maîtrisa sa colère et alla avec circonspection, s'avisant du danger qu'il courait, car Celegorm et Curufin étaient de puissants seigneurs qui n'aimaient point du tout Éole, et Curufin, par ailleurs, était d'humeur menaçante. Mais les éclaireurs d'Aglon avaient observé la chevauchée de Maeglin et d'Aredel jusqu'au gué de Laros, et Curufin, sentant quelque intrigue se nouer, descendit au sud du col et bivouaqua près des gués. Et avant qu'Éole fût bien loin au Imlad, il fut intercepté par la cavalerie de Curufin et emmené devant ce dernier. Lors, Curufin dit à Éole, « Que viens-tu courir sur mes terres, elfe sombre ? Une affaire urgente, sans doute, qui retient au dehors en plein jour une nature si rétive au soleil. » Et Éole, sachant le danger qui le guettait, ravala les propos acerbes qui lui vinrent à l'esprit. « J'ai appris, seigneur Curufin, dit-il, que mon fils et mon épouse, la dame blanche de Gondolin, sont partis vous visiter pendant mon absence, et j'ai cru bon de venir les rejoindre dans ce voyage. » Lors Courrufin lui rit au nez, et il dit à Éole, « Ils eussent trouvé ici un accueil moins chaleureux qu'ils ne l'escomptaient si vous étiez venu avec eux. Mais cela est sans importance, car tel n'était pas le but de leur voyage. Voilà 2 jours à peine qu'ils ont franchi l'Arothiac, et de là vers l'ouest et à toute bride. Il semble que vous cherchiez à me tromper, à moins qu'on ne vous ait trompé vous-même. » Et Éole répondit, « Dans ce cas, Seigneur, peut-être me ferez-vous la grâce de me laisser partir, que la lumière soit faite à ce sujet. » « Vous avez ma grâce, mais non ma faveur, » dit Courrufin. « Plus tôt vous quitterez mon domaine, plus j'en serai aise. » Lors Éole enfourcha sa monture, disant, « Il fait bon, Seigneur Courrufin, trouver la bienveillance d'un parent quand on en a besoin. Je m'en souviendrai à mon retour. » Mais Courrufin lui adressa un regard noir. « Gardez-vous de faire étalage de l'ascendance de votre femme, » dit-il, « car qui vole les filles des Noldor et les épouse sans dot ni permission ne saurait se réclamer de la parenté des siens. Je vous ai donné votre congé. Prenez-le et allez-vous-en. Pour l'heure, les lois des Eldar m'interdisent de vous tuer. Et j'ajouterai ce conseil. Regagnez sur le champ votre foyer dans les ténèbres de Nan Elmoth, car mon cœur m'avertit que si vous poursuivez aujourd'hui ceux qui ne vous aiment plus, vous n'y retournerez jamais. » Lors Éole partit au grand galop, submergé par la haine de tous les Noldor, car il avait compris que Maeglin et Aredel fuyaient à Gondolin. Ému par la colère et la honte de son humiliation, il franchit les guets de Laros et se lança à bride abattue sur le chemin qu'ils avaient suivi. Eux ne se savaient pas pris en chasse, et lui avait la meilleure monture. Néanmoins, il ne put les apercevoir qu'ils ne fussent arrivés au Brithiac, ayant abandonné leurs chevaux. Là, le mauvais sort les trahit, car leurs chevaux hennirent bruyamment, et la monture d'Éole les entendit et s'élança de ce côté. Et Éole discerna au loin la vêture blanche d'Aredel, et il vit le chemin qu'elle prenait en quête de la voie secrète à travers les montagnes. Lors, Aredel et Maeglin arrivèrent à la porte extérieure de Gondolin et à la garde sombre sous les montagnes, où elle fut reçue dans la joie. Et ayant traversé les 7 portes, elle se présenta avec Maeglin devant Turgon sur l'Amon Gwaleth. Alors le roi s'émerveilla d'entendre tout ce qu'Aredel avait à raconter, et il regarda Maeglin avec approbation, trouvant à ce fils de sœur une noblesse digne des princes des Noldor. « Je suis enchanté de voir Arfeiniel rentrer à Gondolin, » dit-il, « et ma cité retrouvera la beauté qu'il avait quittée au temps où je la croyais perdue. Et Maeglin jouira des plus grands honneurs en mon royaume. » Lors Maeglin s'inclina profondément, et il prit Turgon pour seigneur et roi, lui jurant obédience. Mais il garda dès lors une contenance silencieuse et attentive, car la félicité et la splendeur de Gondolin surpassaient tout ce qu'il avait pu imaginer à travers les récits de sa mère, et il restait interdit devant la puissance de la cité et le nombre de ses habitants et toutes les choses étranges et belles qu'il y découvrait. Mais nul n'attirait davantage ses regards que la fille du roi Idril, qui était sise à ses côtés, car elle avait le chef doré des Vanyar, la lignée de sa mère, et elle lui paraissait comme un soleil dont la halle du roi tirait toute sa lumière. Mais Éole, venant derrière Aredel, trouva la rivière à sec et le chemin secret, et il s'y glissa furtivement et parvint à la garde, où il fut saisi et interrogé. Et quand les gardiens l'entendirent revendiquer Aredel comme épouse, ils furent stupéfaits, et ils dépêchèrent un messager à la cité, et celui-ci se présenta dans la grande salle. « Seigneur, » clama-t-il, « la garde a capturé un voyageur qui s'était glissé jusqu'à la porte sombre. Il dit s'appeler Éole, un elfe de haute stature, sombre et sinistre d'aspect, qui est du peuple des Sindar. Or, il soutient que Dame Aredel est son épouse et vous demande audience. Sa colère est grande, et nous avons eu peine à le maîtriser, mais nous ne l'avons pas tué suivant votre loi. » Lors Aredel dit, « Hélas, Éole nous a suivis comme je le craignais. Mais cela s'est fait subrepticement, car nous n'avons vu ni entendu personne à nos trousses en nous engageant sur la voie cachée. Puis elle dit au messager, « Il dit vrai. Son nom est Éole, et je suis sa femme, et il est le père de mon fils. Ne le tuez pas. Conduisez-le plutôt ici pour recevoir le jugement du roi, si le roi y consent. » Ce qu'il fit. Et Éole fut emmené au palais de Turgon, et se tint devant son haut trône, fier et renfrogné. Bien qu'il fût non moins étonné que son fils de tout ce qu'il voyait, son cœur n'en concevait que plus de colère et de haine envers les Noldor. Mais Turgon lui fit honneur, et il se leva pour lui prendre la main, et il déclara « Bienvenue, mon parent, car je vous considère tel. Vous demeurerez ici à loisir, à ceci près que vous devrez rester et ne point quitter mon royaume, car ma loi veut que quiconque trouve le chemin qui mène en ce lieu n'en reparte pas. » Mais Éole retira sa main. « Je ne reconnais point votre loi, » dit-il. « Ni vous ni vos semblables n'avez le droit de prendre des royaumes ou de poser des frontières ou que ce soit en ce pays. Ceci est le pays des Teleri, où vous semez la guerre et toutes sortes de troubles, injustes et orgueilleux dans toutes vos actions. Je n'ai cure de vos secrets, et je ne suis pas venu pour vous espionner, mais pour reprendre mon bien, ma femme et mon fils. Si toutefois vous avez des prétentions sur Aredel, votre sœur, alors qu'elle reste. Que l'oiseau retourne à sa cage, où il dépérira de nouveau, comme il dépérit la première fois. Mais pas Maeglin, vous ne me prendrez pas mon fils. Viens, Maeglin, fils d'Éole, ton père te l'ordonne. Quitte la maison de nos ennemis, des assassins de nos semblables, ou sois maudit. » Mais Maeglin ne fit aucune réponse. Lors, Turgon s'installa sur son haut siège, avec en main son bâton de justice, et il prononça d'un ton grave, « Je refuse de débattre avec vous, elfes sombres. Ce sont les seules épées des Noldor qui défendent vos forêts sans soleil. Si vous est loisible d'y errer en solitaire, c'est uniquement grâce à eux. Sans la protection de mes semblables, vous seriez depuis longtemps réduits en esclavage dans les cachots d'Angband. Ici je suis le roi, et que vous le vouliez ou non, mon jugement fait loi. Ce seul choix vous est offert. « Demeurez ou mourir séant, et cela vaut aussi pour votre fils. » Lors, Éole soutint le regard du roi Turgon, aucunement démonté, et il se tint coi un long moment, tandis qu'un lourd silence emplissait la salle. Et Aredel eut peur, sachant de quoi il était capable. Soudain, vif comme le serpent, il saisit un javelot dissimulé sous sa cape et le lança vers Maeglin, s'écriant « Je prends le second parti, et pour mon fils aussi. Vous n'aurez pas ce qui est à moi. » Mais Aredel se jeta devant le trait, qui l'atteignit à l'épaule. Et plusieurs se ruèrent sur Éole et le maîtrisèrent. Et il fut ligoté et emmené, tandis que d'autres s'occupaient d'Aredel. Mais Maeglin, les yeux fixés sur son père, resta silencieux. On décida qu'Éole serait convoqué dès le lendemain pour recevoir la sentence du roi. Et Aredel et Idril persuadèrent Turgon de lui faire miséricorde. Mais le soir venu, Aredel tomba malade, bien que la blessure parût bénigne, et elle dépérit et plongea dans les ténèbres et mourut pendant la nuit. Car la pointe du javelot était empoisonnée, et nul ne s'en avisa avant qu'il fût trop tard. Aussi Éole, lorsqu'il fut emmené devant Turgon, ne trouva pas miséricorde, et on le mena au Karagdur, un gouffre de roches noires sur le flanc nord de la colline de Gondolin, pour y être jeté des hautes murailles de la cité. Et Maeglin se tenait à côté sans mot dire, mais enfin Éole s'écria « Ainsi tu abandonnes ton père et ses semblables, fils mal acquis. Ici tu failliras à tous les espoirs, et tu pourrais trouver la même mort que moi. » Lors, ils jetèrent Éole dans le Karagdur, et il finit ainsi. Et à tout Gondolin, cette fin parut juste. Mais Idril se troubla, et fut désormais méfiante à l'égard de son cousin. Mais Maeglin, lui, prospéra, et s'éleva parmi les Gondolindrim, louangé de tous et dans la faveur de Turgon. Car s'il apprenait vite et avec zèle, il avait aussi beaucoup à enseigner. Et il s'entoura de tous ceux qui s'entendaient le mieux aux travaux de la forge et de la mine. Et il chercha dans les Ekoriath, à savoir les montagnes encerclantes, et découvrit de riches veines de métaux divers. Il prisait par-dessus tout le fer de roche de la mine d'Angabar, dans le nord des Ekoriath, et il en tira quantité d'acier et de métal forgé, si bien que les armes des Gondolindrim devenaient toujours plus solides et plus effilées, ce qui leur rendit un fier service dans les jours à venir. Maeglin était de sage conseil et de nature prudente, quoique solide et courageux au besoin. Et cela se vérifia. Car lorsqu'en l'année terrible des Nirnaet Arnoediad, Turgon leva son blocus et marcha en renfort de Fingon dans le nord, Maeglin ne voulut pas rester à Gondolin à titre de régent. Il prit les armes et combattit aux côtés de Turgon, se révélant un guerrier redoutable et intrépide. Ainsi tout semblait sourire à Maeglin, désormais éminent parmi les princes des Noldor, et le plus distingué, à une exception près dans leurs royaumes les plus illustres. Or son cœur restait scellé, et quand tout n'allait pas à son gré, il le souffrait en silence, cachant si bien ses pensées que nul ne pouvait les lire, sinon Idril Celebrimbal. Car depuis les premiers jours à Gondolin, il nourrissait un grief, toujours plus cinglant, qui gâtait toutes ses joies. Il aimait la beauté d'Idril et la désirait, sans espoir d'y atteindre. Les Eldar ne se mariaient pas entre si proches parents. Qui plus est, jamais aucun d'entre eux n'en avait eu le désir. Et de toute manière, Idril n'aimait point Maeglin. Et sachant ce qu'il pensait d'elle, elle l'aimait encore moins. Car elle voyait là chez lui une chose étrange et tordue, ainsi que les Eldar en ont toujours jugé depuis, un fruit malsain du massacre fratricide, quand l'ombre de la malédiction de Mandos vint noircir le dernier espoir des Noldor. Mais les années passaient, et toujours Maeglin observait Idril et attendait, et l'amour en son cœur se mua en ténèbres, et il cherchait d'autant plus à prévaloir en d'autres affaires, ne s'épargnant aucune peine ni aucun fardeau s'il pouvait en tirer du pouvoir. Ainsi coulaient les jours à Gondolin, et parmi les joies et les bonheurs de ce royaume, tant que dura sa gloire, germait dans l'ombre une semence maudite.